dans ma précédente boîte, la première mission, c'était ça. C'était... C'est hyper important. Et c'est là où on commence à se dire, il faut segmenter par tiers. Et le premier tiers, c'est sur celui-ci qu'on va appliquer une push ABM.
Bienvenue sur Vendu, le podcast pour booster vos ventes. Ici, on parle de prospection, de vente, de closing, de relations clients, de management, mais aussi de mindset. C'est 100% concret. Je suis Laetitia Fall et je vous embarque dans une nouvelle discussion pour rejoindre le top 1% des meilleurs commerciaux. C'est votre dose de culture sales. Bonne écoute. Alors avant de commencer l'épisode, laissez-moi vous parler d'une nouveauté sur Vendu qui pourrait bien changer la donne pour vous et votre équipe. Une étude a démontré dernièrement que près de la moitié de vos deals sont perdus juste après le premier rendez-vous. Dans un contexte économique difficile, associé à un marché saturé, vos taux de conversion vont fortement dépendre de votre capacité en interne à réussir vos rendez-vous commerciaux, mais aussi à surmonter l'indécision de vos prospects. Pour augmenter votre taux de closing, j'ai créé les Review Sales Meetings. C'est une solution directement inspirée de mon expérience de directrice commerciale ayant signé près de 3000 clients de taille et de secteurs différents. En fait, j'accompagne les commerciaux en leur fournissant des conseils sur mesure pour chaque étape du rendez-vous et un plan d'action pour implémenter mes recommandations. Comment je fais ? J'écoute tout simplement les enregistrements de leur rendez-vous et j'en tire une analyse complète. Alors si vous souhaitez améliorer les techniques de vente de vos commerciaux, lancer une nouvelle offre ou démarcher un nouveau segment, rendez-vous sur www.vendu.fr, cliquez sur « Faire analyser mes rendez-vous » et laissez-vous guider. Allez, on va retrouver notre invité. Je vous souhaite une bonne écoute. Hello, aujourd'hui je suis avec Hélène Tourté. On va parler de ABM. Comment vas-tu ?
Très bien, bonjour Laetitia. Ravie d'être avec toi ce matin.
Bah, carrément. Ravi. Bah, du coup, toi et moi, on se connaît parce qu'on est dans le même collectif, hein, que le collectif Impact. En fait, c'est un... maintenant, notre collectif a un nom. Je donnerai plus de précisions plus tard, etc. C'est toi qui t'occupes du site, c'est toi qui t'occupes de la charte graphique, etc. Donc, tu es hyper impliqué dedans. Et en dehors de ça, bah, en fait, toi, ta spécialité, c'est la partie ABM. C'est quelque chose dont on entend parler parfois comme ça, de temps en temps sur LinkedIn. En France, je ne vois pas énormément de contenu sur le sujet. Toi, tu en fais depuis très très longtemps. Donc déjà, en fait, pour les auditeurs, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ton parcours et quand est-ce que tu as commencé l'ABM, voilà.
La petite histoire.
Ah bah ouais.
Alors, moi, du coup, j'ai commencé ma carrière en tant que commerciale, téléprospection d'abord.
Okay.
Donc, je sais ce que c'est. Que d'appeler je trouve que c'est un métier qui est voilà qui est pas toujours facile mais qui est très enrichissant parce que je pense que c'est comme ça qu'on arrive à avoir vraiment une vision on est au plus proche du terrain, on a les gens au téléphone, on comprend leurs besoins, etc. Donc voilà, j'ai commencé en téléprospection, responsable commercial, et puis ensuite j'ai un peu bifurqué vers le marketing opérationnel. Donc j'ai jamais voulu trop m'éloigner des forces de vente. Donc okay. Là, j'ai fait 18 ans j'ai 18 ans d'expérience en marketing opérationnel B2B. Okay. Ma force, c'est vraiment ça, c'est l'alignement sales et marketing. Quand j'arrive dans une boîte, d'ailleurs, dans ma précédente boîte, la première mission, c'était ça, c'était de créer du lien entre les sales et marketing. Donc, j'ai été directement m'installer dans leur bureau.
Une grande histoire d'amour entre le marketing et le sales. Pas facile,
exactement, mais c'est tellement important de travailler ensemble pour la croissance d'une entreprise. C'est hyper important. Donc moi, je me suis cantonnée à leur bureau, j'entendais tous les calls avec les prospects et tout, parce que c'était un peu en open space, je mangeais avec eux le midi, je me suis complètement immergée, et c'est ce qui m'a permis vraiment de comprendre, parce qu'en plus c'était dans un secteur assez traditionnel, ça m'a permis de comprendre le métier, ça m'a permis d'être au plus près du terrain. Et puis, je les ai même accompagnés en réunion avec des prospects. Et puis, à un moment donné, l'entreprise a pivoté en termes de stratégie vers des grands comptes. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à l'ABM, où j'ai rencontré Maxence Panavoine notamment. Et de là,
je précise pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas, qui est le CEO de Winning by Design France. Voilà.
Et tout à fait. Et donc voilà, une passion commune pour l'ABM. De là, on a organisé plein d'événements ensemble, super intéressants. On a commencé à en discuter avec différentes entreprises. Et puis à un moment donné, en discutant avec ces entreprises, je me suis dit, En fait, il y a vraiment une demande, il y a vraiment un besoin. Et donc, je me suis lancée en tant que freelance. Donc, maintenant, ça fait 4 ans que j'accompagne. Donc, j'avais déjà 3 ans en entreprise de pratique ABM où moi, j'ai été la première ABM. Puis, j'ai constitué une équipe d'ABM à travers le monde avec ces différences culturelles en termes
Wow.
d'ABM qui sont passionnantes. Et ensuite, après ça, je me suis dit, je vais me mettre à mon compte. Donc, finalement, ça fait… 7 ans que je pratique à
Sept
peu
ans que
près
tu fais de l'ABM,
l'ABM.
ouais.
Voilà. Donc,
Grosse, grosse expertise.
grosse expertise, je sais pas, mais en tout cas, je m'éclate toujours autant dans ce que je fais, c'est le principal.
Ah, trop cool. C'est toujours les gens qui en savent beaucoup qui sont toujours les plus humbles. Du coup, on va justement essayer de prendre ton jus de cerveau pour pouvoir comprendre l'ABM et que du coup on puisse du coup appréhender cette technique notamment qui permet notamment pas que mais d'aller chercher aussi également des grands comptes pour les entreprises. Est-ce que tu peux définir ce que c'est l'ABM, enfin les avantages, à qui ça s'adresse, qu'est-ce qu'on peut attendre en fait justement quand on est une entreprise de l'ABM?
OK. Donc, l'ABM, c'est Account-Based Marketing. Donc, ça vient surtout des États-Unis. En soi,
Pas encore quelque
c'est
chose.
pas une nouveauté. Non, c'est vrai. Dans la vie de tous les jours, certains profils sales, même beaucoup, à partir du moment où tu as une attente, une approche un peu personnalisée sur ton prospect ou sur ton client, c'est une forme d'ABM. En tout cas, tu tends vers l'ABM, quoi, on va dire. Donc, pour moi, je simplifierais parce que des fois, ce mot peut un peu faire peur en se disant, mais qu'est-ce que ça veut dire, etc. Moi, je simplifie ça en disant que c'est une approche vraiment ciblée, personnalisée pour les comptes stratégiques. Voilà. Donc,
Ok.
en tout simple. Ou des
Ok, en
comptes,
tout simple.
je dis souvent, comptes stratégiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire compte à fort potentiel, quoi, pour
Ok, donc
l'entreprise.
c'est-à-dire qu'une boîte, ça peut concerner les grands groupes, comme ça peut concerner des grosses PME ou des boîtes d'un secteur en particulier. Voilà, du moment que c'est une cible prioritaire pour une boîte et qu'on veut faire de la prospection personnalisée, du coup, on peut appeler ça de l'ABM, c'est ça,
À peu
globalement.
près. Alors, on peut rajouter des petits critères. Donc, juste pour finir, effectivement, donc c'est une approche personnalisée, mais c'est les équipes marketing et celles qui travaillent vraiment main dans la main pour fournir des messages, pour donner des contenus, enfin, au bon moment et aux personnes qui veulent surtout. Donc ça, c'est vraiment la description de l'ABM. Pourquoi? Parce que les cycles d'achat se sont rallongés. Maintenant, il y a plusieurs personnes qui influent sur les décisions aussi, etc. Puis il faut savoir que les acheteurs sont sursollicités, hein. On vise tout le temps les mêmes personas. Moi, je le vois entre différentes entreprises. Donc si on va pas chercher la pertinence, si on va pas chercher comment répondre à sa problématique, comment lui donner des choses pertinentes qui peuvent d'abord l'aider avant de lui demander quelque chose. Enfin voilà, je pense que on a moins de chances, en tout cas, d'échanger avec cette personne clairement. Après, c'est vrai qu'en termes de maturité ABM, il faut quand même au-delà du fait, effectivement, ça peut s'adapter à plusieurs entreprises, mais je pense qu'il faut quand même avoir une unité de mesure en termes de deal, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de l'ABM sur un panier trop bas, donc on va plutôt faire de l'ABM, on parle à partir de 50K.
Ah ouais.
En termes d'ACV, là, on peut faire de l'ABM, oui, parce que sinon, on met beaucoup de ressources. Pour peu de retours sur investissement. Il y a certains comptes qui ne nécessitent pas, qui répondent à une partie de l'ICP et qui ne nécessitent pas de mettre autant de ressources pour le signer. Donc du coup, il faut quand même avoir des unités de mesure, on va dire. Et donc pour moi, c'est minimum 50K, notamment pour faire une approche ABM personnalisée, mais pas ultra personnalisée, et au-dessus de 100K pour de l'ABM vraiment ultra personnalisée. On va vraiment rentrer, on va faire des actions dédiées à des comptes, etc., etc.
Ok, très intéressant parce que du coup, je vois pas mal de personnes parler d'ABM sur des comptes à 10K, 20K. Du coup, ça pose bien le cadre. T'en as un peu parlé, mais du coup, pour toi, c'est quoi les avantages en fait de faire de l'ABM justement quand on se trouve dans ce cas-là? Tu as parlé du fait que les interlocuteurs étaient très sollicités. Est-ce que tu vois d'autres choses dans le fait de faire de la BM quand on commence à avoir des paniers moyens assez importants?
Bah, déjà, les avantages, c'est d'être sûr de travailler sur des comptes de passer du temps à creuser et à attaquer des comptes qui sont attentifs à l'offre qu'on leur propose, quoi. Donc, d'être sûr de travailler sur des comptes qui représentent vraiment un potentiel pour l'entreprise, à qui, voilà, dont la proposition de valeur parle. En fait, y a aussi le fait de, autre avantage, dans une approche ABM, on va aller s'intéresser aux influenceurs. Donc, on identifie souvent des personnes qu'on n'avait pas en tête au départ parce que, on reste collé à son persona. Bah, voilà, si c'est le DSI, c'est le DSI. Donc, je vais aller chercher le DSI de la boîte. Mais peut-être que sur ce sujet-là, il y a d'autres personnes qui n'ont pas exactement la fonction qu'on recherche habituellement, mais qui va avoir un impact dans la décision. Et donc, en fait, l'ABM permet de cartographier justement ces contacts et donc d'ouvrir plus de possibilités, plus de chances, plus de portes d'entrée pour l'entreprise qui souhaite la cibler.
Ok, c'est hyper intéressant parce que du coup, justement, quand on est sales et là, du coup, ça donne un autre regard, c'est-à-dire qu'on aura tendance, comme tu le dis, de se dire, bon, bah voilà, moi, je commercialise une solution de recrutement, du coup, je vais aller chercher que les DRH et donc, imaginons, j'ai envie de travailler avec le groupe Vinci qui a beaucoup de filiales, peut-être effectivement des profils à recruter assez différents en fonction des filiales, etc. Du coup, plutôt que d'aller chercher la DRH groupe, typiquement, tu vas aller chercher peut-être d'autres personnes qui vont pouvoir influencer à l'intérieur du compte le fait d'être intéressé en tout cas ou d'avoir une porte d'entrée pour pouvoir discuter avec les bonnes personnes, convaincre des gens au fur et à mesure, jusqu'à peut-être à un moment donné aller trouver la DRH, mais pas que ce soit une porte d'entrée directement. Et je trouve ça intéressant parce que parfois on bourrine sur les boîtes mail ou même je pense les messageries. J'aimerais pas voir ce que c'est une messagerie LinkedIn d'un DRH aujourd'hui.
Ça
Je fais
doit
partie des
clignoter de
gens.
partout, je pense.
Ouais, je fais partie aussi des gens qui leur écrivent. J'essaie de leur écrire bien, mais bon, bah, c'est pas évident. Du coup, c'est plus intéressant parce qu'on peut toucher du coup des personnes qui sont beaucoup moins sollicitées globalement et donc du coup peut-être plus à même de répondre,
Exactement.
ou voilà. Ok. Bon, en tout cas,
Et en fait,
je trouve ça.
je dirais même, souvent, on veut toujours, enfin, le réflexe d'être dans son entreprise, c'est souvent de dire, ben, moi, je veux toucher le top. Moi, je crois à l'approche en plus, top and down, quoi. C'est-à-dire que j'ai vu beaucoup de situations se débloquer, en influençant toujours, effectivement, le premier persona qui va être le DRH dans le cas que tu as cité, mais aussi influencer d'autres personnes un peu plus opérationnelles, des profils opérationnels, parce que finalement, ces gens-là peuvent ensuite, déjà, ont plus, effectivement, comme tu dis, sont moins sollicités quand même, on peut avoir vraiment des discussions intéressantes et des échanges pertinents, et voire même cette personne-là, finalement, finit par organiser la réunion pour vous, pour l'entreprise. Donc, en fait, c'est tout, et c'est gagné. Et la personne, le DRH, va avoir des messages aussi, il va voir des choses passer. Donc, voilà, tout ça, c'est une espèce d'impact, d'engager à différents niveaux. Mais c'est pour moi, c'est ça qui fonctionne. C'est pas de se dire, allez, non, je tape que le top ou je tape que le down. Enfin, pour moi, c'est les deux approches en même temps qui sont pertinentes, à condition, bien sûr, de pas être dans un objectif de masse, évidemment. Puisque de l'ABM, c'est pas masse.
Trop bien. Du coup, tu t'en as aussi un peu parlé, mais j'aimerais peut-être qu'on rentre un peu plus dans le détail, de se dire aujourd'hui, tu l'as dit, tu as parlé du panier, est-ce qu'il y a d'autres critères de maturité qu'il faut avoir pour faire de l'ABM, notamment vu qu'en fait, on est quand même sur des équipes, en gros, la start-up qui démarre, qui a qu'un CEO, qu'un sales, c'est pas forcément intéressant parce que j'ai l'impression qu'il faut quand même une équipe marketing assez solide pour construire, on le verra plus tard, mais des ressources, des choses, enfin voilà. Donc, en gros, c'est quoi les conditions pour se dire, OK, là, je vais commencer à mettre en place une stratégie d'ABM, en tout cas, je peux mettre en place une stratégie d'ABM.
Ouais, je pense qu'il faut effectivement déjà ces cibles B2B. Voilà, même si j'entends, je commence à entendre parler de l'ABM pour le B2C. Bon, moi, pour l'instant, en tout cas, mes critères, c'est le cible B2B.
Ouais, c'est vrai, c'est bizarre pour B2C, mais bon, ok.
La
Ah
mise en place du marketing avec, effectivement, faut pas, si on démarre son activité, c'est peut-être pas la priorité là tout de suite pour structurer sa boîte de faire de l'ABM, excepté un cas que j'ai vu où effectivement son business c'était de s'adresser que aux grands comptes. Dans ce cas-là, effectivement, on démarre le marketing et on démarre par l'ABM, puisque c'est le business principal de l'entreprise. En revanche, voilà, sinon, c'est vraiment l'exception. Sinon, il
Ok.
faut quand même voilà, avoir mis en place un peu de marketing, je veux dire, avec une démarche assez classique, structurée un petit peu. Et après, on peut partir sur de l'ABM, tester des choses. Comme ça ne met pas en péril voilà, le chiffre d'affaires et les objectifs de chiffre d'affaires.
Ok, très clair. Très cool. Bah, maintenant qu'on a un peu posé le cadre, ce qu'est l'ABM, ses avantages et à qui ça s'adresse, bah, on va parler du coup de comment on fait, comment on démarre. Ok, on veut démarrer un programme d'ABM, parce qu'on parle plutôt de programme généralement dans le langage. Par quoi on commence?
Alors, on commence vraiment sur la partie, donc déjà faire des workshops, c'est super intéressant. Et déjà à ce niveau-là, les entreprises, souvent, elles apprennent des choses. Rien que de poser tout le monde autour de la table et de
Ok.
dire, voilà, quel est l'objectif qu'on va mener dans ce programme ABM. Donc, il y en a, ils vont dire, bah, moi, je veux vraiment engager les personnes. Moi, je veux du rendez-vous avec les personnes clés que j'ai indiquées, etc., etc. Bref, quand on va définir vraiment des objectifs pour ce programme ABM, on va aussi parler de méthode. Et rien que l'anecdote, rien que quand vous demandez aux personnes du marketing et sales, avant ces workshops ou pendant ces workshops, ça dépend, on a différentes approches, de leur dire, voilà, pour vous, c'est quoi le cycle de vente moyen de votre entreprise, vous avez des grands écarts déjà.
Mais elle celle qui
Donc,
dit 10 mois et puis le marketing qui dit 3 mois.
ouais, voilà. Il peut y avoir vraiment des disparités, mais énormes. Donc, c'est rien que ça, c'est intéressant parce que du coup, bah, ça permet d'aligner tout le monde sur les mêmes bases, d'avoir les mêmes informations et de partir sur un socle un peu sain et solide, en tout cas. Donc, rien que ces workshops, je vois souvent le marketing vraiment noter tout ce que le sales dit sur quand on commence à rentrer sur ces méthodes, de dire, bon, d'accord, alors toi, comment tu fais aujourd'hui pour prospecter? Quels sont les meilleurs canaux de communication, etc. On rentre vraiment dans les méthodes au-delà de l'ICP. Et du persona, on rentre vraiment dans les méthodes. Bah, est-ce que le LinkedIn, ça marche mieux? Est-ce que tu trouves que ta cible ont plus d'appétence pour certains contenus plus que d'autres, etc. Et je vois souvent le marketing noter, 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 parce que voilà, c'est ce genre de conversation où là, il se livre, il donne vraiment ce qu'il vit au quotidien et vice-versa. Hein,
Ah ouais,
vice-versa.
vice-versa. Mais alors, du coup, ce qui est intéressant, c'est que du coup, sur ces workshops, tu réunis du coup les sales, les marketing généralement. Est-ce qu'il y a d'autres personnes en fait qui sont intéressantes dans ce genre de workshop pour
Oui,
pouvoir
alors on va dire ça, on va dire c'est le minimum.
Ok.
Après, moi j'aime beaucoup embarquer quand il y en a. C'est pas le cas de toutes les entreprises, mais une équipe de SDR parce que je pense qu'ils ont vraiment leur valeur ajoutée dans le programme ABM.
Ok.
Et puis, si c'est le cas de clients. Parce que l'objectif du programme ABM, tu peux en avoir différents. Tu peux avoir reconquête de clients ou upsell, cross-sell ou d'acquisition pure avec des prospects qui nous connaissent parce qu'on est sur un secteur, parce qu'on a un use case client déjà, etc. Et donc, voilà, plus de signer des nouvelles opportunités et des nouveaux noms. Mais en gros, si c'est du client, donc cross-sell, upsell, donc ce que j'appelle un peu de l'ABM d'expansion, là, dans ce cas-là, le CSM, ou la personne qui suit le client. Alors, il y a différents noms de fonction pour ça, mais voilà, la personne qui va accompagner le client au quotidien, qui n'est pas sales et qui n'est pas marketing, est intéressante à inclure,
Clairement.
évidemment, puisque lui a créé la relation avec le client. Donc, plutôt que d'essayer de rentrer avec quelqu'un qui ne connaît pas, d'utiliser quelqu'un qui connaît bien et qui les a au quotidien, bah forcément, ça ouvre des portes.
Trop bien. Et du coup, l'objectif globalement de ces workshops, c'est effectivement que chacun partage sur sa connaissance, ses pratiques, ses méthodes au quotidien de prospection ou en tout cas de relation avec le client. Et du coup, toi, c'est quoi que tu essayes de sortir de ces workshops pour pouvoir du coup démarrer, comme tu dis, sur des
Ouais.
bases saines le programme ABM?
Alors, on va vraiment travailler. Alors, c'est structuré, hein. C'est pas que de la conversation, sinon on
Ouais,
sort de là
j'imagine, j'imagine.
sans choses concrètes. Il y a quand même des processus pour l'ABM pour bien le mettre en place. On ressort quand même avec des ICP complets, avec des signaux d'affaires, avec les meilleurs canaux pour communiquer avec eux, avec quel type de contenu on peut s'appuyer, avec le marketing aussi qui donne beaucoup beaucoup d'insights et de retours sur quels sont les campagnes qui ont le mieux fonctionné, etc. C'est pas la peine de réécrire d'une page blanche. On reprend aussi les bonnes pratiques qui fonctionnent, etc.
Oui, bien sûr.
Donc une fois qu'on fait ça, on a bien structuré, on sait à peu près vers quel type d'ABM on veut aller, puisqu'il y a plusieurs types d'ABM, il y en a trois. Moi, je suis surtout centrée sur les deux premiers qui sont le one-to-one, où là, on va faire vraiment une approche complètement personnalisée au niveau du compte. Et il y a le one-to-few, où là, on a un groupe de comptes. Donc, comme on a un groupe de comptes, on va plutôt jouer sur des problématiques similaires. Donc, ça peut être
Ok.
persona, sectoriel ou tout simplement parce qu'ils ont les mêmes enjeux.
Ok.
Voilà. Donc, ça va être… on sait à peu près vers quoi on veut aller. Et ensuite, on commence à discuter effectivement de… quid de… voilà. Est-ce que vous avez segmenté toutes les cibles que vous avez voilà, hors ABM, hein, je veux dire globalement. Et c'est là où on commence à se dire, il faut segmenter par tiers. Et le premier tiers… C'est sur celui-ci qu'on va appliquer une couche ABM et une approche ABM. C'est-à-dire que c'est le premier tiers correspond parfaitement à l'ICP qu'on s'est donné. Et on est d'accord que l'ICP, ce n'est pas uniquement la taille de l'entreprise et le chiffre d'affaires, hein? On va beaucoup
Ouais,
plus
mais
loin.
du coup, j'aimerais bien qu'on prenne un peu une minute là-dessus, parce que justement, avec quoi tu ressors minimum sur les critères, tu vois, on pose toujours la question des critères, combien il en faut, quel type de critères, et généralement, c'est vrai que les gens, quand ils parlent d'ICP, donc de client idéal, ouais, pour les personnes qui peut-être maîtrisent pas toujours les termes, etc. Ouais, à chaque fois, c'est voilà la taille, voilà le secteur, est-ce qu'ils ont fait une levée de fonds ou pas, enfin des trucs extrêmement basiques, par exemple, qu'on peut trouver, je dirais, avec une recherche niveau zéro, par exemple, sur Sales Navigator. Est-ce que toi, tu as des recos là-dessus, ou j'en sais rien, en tout cas sur la partie critères, ou ouais, tu as des
Ouais,
choses à dire?
justement, il n'y a pas très longtemps, voilà, quelqu'un qui proposait un peu du no code, low code, par exemple, le critère, ça pourrait être justement une baisse des effectifs dans le département IT.
Okay.
Exemple. Ça peut être, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Il y a les appels d'offres, bon, ça c'est un peu classique. Ça peut être aussi une fin de contrat
Ouais.
avec un concurrent. Ça peut être un nouveau décisionnaire qui arrive. Ça peut être un critère aussi supplémentaire. Et c'est l'ensemble des critères qui va dire on peut. Mais effectivement, il ne faut pas en avoir 10, 15. Je pense que 5 à 8, c'est très bien, quoi. On peut
OK.
avoir aussi la levée de fonds, acquisition, qu'est-ce que j'ai eu? La bonne santé financière aussi, on regarde souvent parce qu'on se dit, voilà, il a un gros chiffre d'affaires, c'est bien. Oui, mais enfin, si c'est sur les 3 dernières années, ils sont plutôt en descente. Et donc, on peut avoir soit le pitch de dire, c'est le bon moment pour eux, soit justement, je peux les aider. Et donc, ça m'intéresse quand même. Mais en tout cas, c'est intéressant de regarder cette partie-là. Après, pour tout ce qui est soft, on va regarder un peu la maturité digitale. Du compte. Voilà, c'est un peu ces
Ah ben
tendances-là.
ça va beaucoup plus loin, ça va beaucoup plus loin que des trucs un peu classiques et basiques. Donc en tout cas, je trouve ça intéressant. Ça permet aux gens de les challenger un peu sur les types de critères qu'ils peuvent aller chercher et trouver. Et comme on est en fait, on est quand même sur une approche personnalisée. On peut aller chercher des critères qui, parce que souvent les gens prennent des critères un peu basiques parce qu'ils veulent toucher un maximum de personnes. Tu vois, si tu fais la taille, ce navigateur, tu peux vite trouver avec 30 000 boîtes que tu peux aller
Exactement.
cibler. Si tu commences à aller chercher, ok, j'ai envie de voir les boîtes qui ont un nouveau décisionnaire sur tel service. Bon, là, du coup, tu vas réduire vachement ton
Oui.
scope, surtout si t'es sur des secteurs différents, etc. Donc, bon, en tout cas, je trouve ça intéressant. Donc, là, en fait, on a les critères. Du coup, on peut, je sais pas si tout le monde est familier là-dessus, mais on peut du coup diviser sa base en fait de clients en tiers. Donc,
Oui.
tu parles du coup du tiers 1, qui est ton max, celui
Oui,
avec
oui.
qui
C'est
tu
vraiment
vas mettre
les.
tous tes efforts possibles et imaginables pour pouvoir les closer, tes clients parfaits, quoi.
Tout à fait. C'est vraiment les comptes qui correspondent parfaitement à l'ICP. Ils sont similaires aux clients de l'entreprise, tout du moins les plus importants. Ils ont des représentants de compte, évidemment, et donc ils ont vraiment une valeur stratégique pour l'entreprise. Et ils ont un événement critique qui est vraiment une date butoir. Bon, là, on sait que cette date-là, il faut qu'ils choisissent. Alors, si on est dans le cas d'un soft, ils doivent choisir un soft ou autre. Ça peut être différentes choses. Mais en tout cas, voilà, c'est le tiers 1, c'est vraiment l'ICPP à 100%. Et donc, on a des comptes nommés. Et sur ces comptes nommés-là, on va appliquer de l'ABM.
Alors, je trouve ça intéressant parce que tu as fait une petite insertion qui paraît normale pour toi parce qu'on est assez fan et friand notamment des ressources Winning by Design. Donc, tu as parlé
Tout à fait.
de l'événement critique, donc du Critical Event. J'ai fait un épisode du coup avec Laurent Sébarek où on a parlé justement de la méthode Spiced comme une méthode de vente qui permettait d'augmenter ses conversions, de vendre mieux, de permettre de poser de bonnes questions. Et là, en fait, on voit bien que Spiced, on en a parlé dans cet épisode-là, ça permet à la fois d'aider les sales à mieux vendre, mais aussi également le marketing à mieux cibler les boîtes qu'on doit aller prospecter, et aussi également le CSM à mieux renouveler ou à mieux accompagner, à faire en sorte tout simplement qu'on ait de l'impact. Et donc là, en fait, tu l'as super bien introduit en disant, voilà, aujourd'hui, on va aussi aller chercher dans mon tier 1 les boîtes avec lesquelles on va avoir un critical event, donc une date assez claire à quel moment, en fait, cette boîte doit avoir un impact sur le sujet sur lequel elle a
Tout
des problèmes. Donc, super, parce que on n'aurait pas pu mieux
à fait.
introduire le critical event, l'événement critique et Spice dans le cadre de l'avant-vente, quoi, du coup. Ok, en fait, du coup, tu as parlé du coup de cette partie. Ok, maintenant que j'ai mes tiers, soit je fais du one-to-one, soit je fais du one-to-few. Aujourd'hui, par exemple, est-ce que tu as une idée, comment se prend la décision de faire l'un ou de faire de faire l'un ou de faire l'autre?
Alors, je pense que ça dépend de l'objectif qu'on se fixe en termes de timing, parce que le one-to-one, c'est vraiment sur la durée. Parce qu'on est c'est ultra personnalisé, donc c'est compte par compte, c'est vraiment du travail main dans la main avec le sales sur son compte-là, parce qu'il est ultra stratégique, parce qu'il n'a pas non plus 36 000 comptes déjà à gérer, et donc il va c'est déjà dans ses objectifs. Ça fait partie de ses objectifs que de signer ces comptes stratégiques-là. Donc le one-to-one, c'est sur la durée. Le
Ok.
one-to-few, oui,
Alors juste sur ça, sur
bien
le
sûr.
one-to-one, c'est sur la durée. Le marketing va travailler en main dans la main avec le sales.
Oui.
Ça peut paraître un peu abstrait pour quelqu'un qui fait pas de l'ABM de se dire ok, jusqu'à quel niveau d'information tu peux avoir? Parce que là, tu as déjà t'as donné pas mal d'informations qui te permettent de pouvoir critériser et déjà sortir les gens dans un tier 1. Je ne sais pas si ça se dit exactement ce mot-là, les gens me pardonneront. Du coup, quand tu as ces boîtes-là, le travail que tu fais de recherche d'informations, on l'avait parlé un peu en off, où tu vas analyser le compte, tu vas voir à l'intérieur, par exemple, qui serait prêt à parler avec vous. Ça, aujourd'hui, c'est quoi tes outils aujourd'hui que tu utilises pour ça avec le sales? C'est quoi vos outils? C'est de l'appel? C'est uniquement avec Sales Navigator? C'est de l'IA? Enfin, qu'est-ce que tu as aujourd'hui pour ça?
Alors, moi, je suis un peu à l'ancienne, j'avoue, mais je trouve que l'IA, l'IA apporte un gain de temps et une vraie méthodo pour ça, parce que effectivement, dans du one-to-one, la première étape, c'est de faire un account plan, un plan de compte vraiment détaillé, d'ailleurs, qui est déjà fait souvent dans les entreprises par la compte exécutive du compte, il le fait déjà pour sa direction. C'est-à-dire que quand il a un compte très stratégique, il doit toujours présenter une espèce de plan d'attaque ou plan stratégique pour engager ce compte-là et pour construire une relation dans la durée avec ce compte. Donc, en fait, en ABM, c'est tout simplement cette version-là, mais en plus étoffée. Et donc, du coup, ça aide déjà le sales à avoir une meilleure vision, à étoffer sa présentation, à savoir. Donc, c'est vraiment un vrai soutien. Et en plus, ça vient nourrir la campagne ABM. Donc, c'est vraiment un plan de compte. Donc, moi, c'est sous forme de PowerPoint. Donc, vous pouvez avoir, ça dépend, 40, 50 slides pour un compte. Des fois, ça dépend ce qu'on cherche à faire. Mais on va vraiment
J'avais envie qu'on rentre un peu là-dedans, parce que je pense que les gens se posent… Enfin, quand on parle ABM, tu as l'impression que oui, il faut avoir des informations, 3-4 bullet points, voilà ce qu'il fait. Et ça, voilà, j'ai envie de casser cette image-là, c'est un vrai travail. C'est-à-dire que là, on parle tout à l'heure, on reprend ce que tu disais sur le panier. On peut être, alors, surtout si on est sur, j'imagine que le one-to-one, on est sur des comptes où quand on est sur de la vente de 100 à 1 million, par exemple. J'imagine.
Ouais, à partir de 100 à beaucoup plus, oui, tout à fait. Ouais. On va être vraiment sur. Donc, il y a de l'intérêt à comprendre comment est le compte, à être sûr donc de comprendre l'organigramme, ne serait-ce, je ne vais pas forcément citer des noms de comptes, mais il y a des comptes où c'est très très compliqué d'avoir un organigramme simplifié tellement ils sont gros. Et tentaculaire. Donc déjà comprendre comment le compte fonctionne, un peu sa philosophie. Est-ce que il grandit par croissance externe, etc., etc. Comprendre les branches, comment elles sont. Les branches, qu'elles incluent. Ça permet de cibler et pas juste se dire je vais attaquer tout le gros compte. Bah non. Peut-être qu'il y a des en regardant le chiffre d'affaires, etc. Et les orientations stratégiques, il y a peut-être des branches qui sont plus intéressantes que d'autres. Pour le business qu'on veut proposer, donc pour la proposition de valeur. Donc déjà se centrer sur ces branches-là, si on n'a pas de vision sur le compte, si on ne comprend pas le compte, on n'est pas capable de le faire. Ensuite, on commence à mettre des noms, on cartographie avec des noms, qui est à la tête de telle branche, de tel business, etc. Et après, on rentre vraiment sur les profils qui sont, par exemple, l'exemple que tu as cité sur le recrutement, de savoir qui décide pour la mise en place d'un logiciel de recrutement ou de formation, etc., etc. Donc, c'est important de comprendre tout ça. C'est important d'avoir le plan stratégique de la boîte, parce que c'est là où on va retrouver un peu les sujets qui font sens. S'il est où on sent qu'il y a un timing, où ils annoncent que à telle date, il faut absolument, ils ont une priorité sur mettre en place un logiciel de recrutement pour tout le staff, etc. On va aller là-dessus. On va commencer à lui dire, comment tu dois, quel est le qu'est-ce qui est important dans le recrutement à mettre en place en termes de technologie, etc., etc. Donc, il faut vraiment comprendre ça, comprendre le plan stratégique, cartographie des filiales, j'en ai parlé, organigramme des contacts, et puis après, dans les top décideurs, comprendre aussi qui on a en face. Donc, il y a les informations qui sont attachées à la boîte, qui sont importantes, Et les informations qui sont rattachées au sujet, donc la proposition de valeur qu'on vend. Donc, dans ce cas-là, par exemple, c'est de creuser qu'est-ce qu'ils utilisent en recrutement, etc., etc., aujourd'hui, et comment ils se positionnent sur ce sujet et comment ils en parlent. Et ensuite, il y a les informations rattachées aux personnes. Donc, une fois qu'on a cartographié et qu'on a vu les personnes qui nous intéressaient le plus, c'est essayer d'apprendre à les connaître. En général, ces gens-là sont souvent speakers, sont souvent interviennent dans différents événements. Donc, rien qu'en écoutant un podcast ou effectivement un webinaire ou une interview de ces personnes-là, on arrive à comprendre en fait ce qui est important pour lui. On arrive à comprendre aussi la personne qu'il est, parce qu'on a tous un passif, hein, et c'est pas la dernière fonction qui fait foi, en fait. Ce qui fait la personne, c'est tout son historique, un peu comme moi, qui a commencé par la téléprospection, qui a jamais voulu mais l'éloigner des sales. Bah, chacun a son histoire, en fait. Donc, ça permet de connaître un peu la personne, et donc de se dire, OK, comment je peux l'aider? Et
Comment je
à
peux avoir de
partir,
l'impact pour elle et
voilà,
à la fois
comment je
l'impact
peux l'aider?
rationnel et l'impact émotionnel aussi en prenant
Exactement.
la partie globale.
Tout à
Ok.
fait.
Très bien. Et bah, du coup, en fait, c'est génial. Et j'espère en tout cas que les auditeurs prennent conscience de la masse de travail que ça demande parce que parfois, on a envie de signer des gros comptes.
Très
Et en
vite,
fait,
trop vite.
enfin, tu vois, sur un compte, quand tu dis que tu peux avoir jusqu'à 50 slides. Tout ce que tu cites, en fait, à la fois d'avoir des informations sur le compte, sur le sujet, sur les différentes personnes, etc., pour ensuite, et là, on n'est même pas encore à avoir réfléchi sur l'approche, hein. Là, on est juste sur toutes les informations qu'il va nous falloir pour pouvoir ensuite travailler sur les bonnes approches.
Après, je
Alors,
rassure
justement.
quand même parce que du coup, on se dit, oh là là, mais moi, j'ai pas le temps de faire ça, etc.
Bon,
C'est là
après,
où
pour 100 000 euros.
non, mais c'est là où intervient l'IA pour se faciliter la vie. Et je pense que c'est là où intervient aussi, et c'est ce que je fais, je donne aussi des formations là-dessus, qui est de dire, voilà, quelles sont les petites méthodes? Donc, il y a des petites méthodes avec des critères booléens, on va très, très vite. Et franchement, c'est assez incroyable en 2 heures, 3 heures de temps ce qu'on est capable de sortir sur un compte, quoi.
Ok,
Donc,
il faut
et
juste
dans
avoir les bonnes techniques, etc. Parce que tu vois, par exemple,
exactement, c'est ça.
je sais que tu vas sur Sales Navigator, t'es pas, enfin, tu sais pas maîtriser Sales Navigator. Il peut se passer, tu peux vraiment galérer, rien comprendre. Tu peux passer de 30 000 targets à tout d'un coup passer à 400. T'as rien compris ce qui s'est passé entre les deux. Tu peux aller trouver un compte et te dire, mais je comprends pas pourquoi cette personne-là, j'étais persuadée qu'elle travaillait pour ce compte-là, ne pas la trouver alors que t'es en train de chercher un compte précisément. Enfin, en tout cas, voilà, ça demande quand même un peu de technique. Donc t'as raison, en fait, c'est
Voilà.
évidemment c'est beaucoup. Mais voilà, comme toutes les choses qui sont un peu qui sont compliquées, ça demande un peu de savoir-faire en tout cas. Et du coup, justement, là, on a parlé beaucoup du one-to-one
Oui.
de l'account plan. Le one-to-few, du coup, quand tu dis justement, là, l'idée, ça va être plutôt d'avoir une logique globale. C'est quoi? C'est là, du coup, on est sur de la semi-automatisation globalement.
Alors,
On prend un peu les informations.
on est moins dans l'ultra personnalisé, évidemment, mais par contre, on est quand même dans le personnalisé. Moi, je fais quand même, je sais que pas beaucoup de personnes le font en ABM, mais moi, je fais quand même dans le one-to-few une recherche. Par contre, ça va pas être des PowerPoint. Là, je me fixe 1 heure à 2 heures grand max. Normalement, je reste dans l'heure et je reprends ces 5 à 8 critères qui sont hyper importants, les signaux d'affaires, et je vais chercher sur 30 comptes, 1 heure par compte ou 30 minutes. Ça peut m'arriver aussi sur 30 minutes d'aller chercher uniquement les informations qui nous intéressent pour construire un programme pertinent, quoi. ABM. Et donc après, donc il y a quand même cette phase de recherche, mais beaucoup plus synthétique déjà. Mais on peut quand même, grâce à ça, faire de la personnalisation sur un groupe de comptes. Et donc se dire, bah voilà, il y a des enjeux qui reviennent, il y a des enjeux qui reviennent, et on va s'appuyer là-dessus pour construire le programme ABM et donc des contenus et donc des messages et donc voilà. Donc, il faut le faire aussi en one to few. Enfin, je pense que si on va pas chercher de l'info, en fait, si on capitalise pas sur soit de la connaissance déjà existante au sein de l'entreprise, soit sur de la recherche, on peut pas être pertinent dans son approche et on fait pas la différence non plus.
Ok. Alors, du coup, on a toutes ces informations-là. On rentrera plus en détail. Je fais un petit teasing dans un prochain épisode parce qu'on ne pourra pas tout dire ici. Enfin, en tout cas, pour pas que ce soit un podcast de 3 heures. Du coup, c'est quoi les possibilités derrière? Généralement, quand t'as approfondi assez sur les différents comptes, que t'as assez d'informations, c'est quoi les possibilités ensuite, qui s'occupe en fait de reprendre la main? C'est le marketing, c'est les sales?
Alors, sur la partie opérationnelle, c'est quand même plus le marketing jusqu'à ce qu'on ait réussi à engager une personne. Après, ça prend le relais, mais ils travaillent quand même main dans la main. C'est-à-dire que comme c'est des comptes dont le sales est responsable, forcément, il va quand même valider. Enfin, déjà, il a donné des informations capitales pour construire le programme, mais en plus, il va valider les messages et donc va être vraiment impliqué dans la méthode, mais on va que le solliciter. Enfin, il prend un petit peu de recul, on va dire. La partie opérationnelle, c'est vraiment le marketing. Et après, quand on a engagé les personnes, bah, ça rebascule en soit c'est le SDR, soit c'est le sales qui reprend la main, mais avec le soutien du marketing. C'est-à-dire que le marketing, enfin, ensemble, ils vont s'assurer qu'il y a une continuité aussi dans la relance avec ces personnes-là, quoi. Donc ils vont lui proposer, ça peut être de la proposition de retour de, comment dire, de témoignage client, ça peut être du contenu, ça peut être beaucoup beaucoup de choses, lui importer des informations sur telle et telle personne pour lui donner des excuses, des leviers pour rentrer en contact, etc., etc. Mais bon, on a déjà engagé les personnes, mais du coup, le rôle s'inverse un peu, mais ils sont toujours entremêlés. Hein.
Ok. Comment tu juges justement, alors du coup, que ton programme est ABM, du coup, il marche bien. C'est quoi tes KPI?
Alors ça, ça dépend KPI. De ce qu'on fixe, mais en gros, il ne faut pas trop s'éloigner en fait, en réalité, des KPI qu'on a déjà dans l'entreprise et qu'on suit. Hein. La seule différence en ABM, c'est vraiment le taux d'engagement de compte. Voilà. D'habitude, en traditionnel, on est plus le nombre de leads, on va dire. Alors ça, que là, on va être le nombre de personnes engagées au sein d'un même compte, par exemple.
Comment? C'est-à-dire le nombre de discussions qui ont été déclenchées, par exemple, en ce moment, il y a un nouveau truc qui arrive un peu dans le B2B à la mode, qui est le setting, le fait de déclencher des discussions avec des gens, rien à voir avec une stratégie d'ABM, mais en tout cas, c'est, et du coup, leur KPI qui suit, ça va être le nombre de discussions que je déclenche, pas le nombre de rendez-vous que j'ai. Est-ce que du coup, on est à peu près sur le même niveau sur le CRM? On va aller regarder avec qui on a discuté, à qui on a envoyé une ressource, ça va être ça?
On va être plus sur, c'est vraiment pas trop quanti, c'est vraiment quali, mais par exemple, c'est sur au sein d'un seul compte, est-ce qu'on a réussi à engager effectivement plusieurs personnes? Donc c'est le seul KPI qui vient se rajouter sur ceux qu'on a de traditionnels. Mais évidemment, l'indicateur ultime, ça va être le nombre d'opportunités. Ou le fait qu'on ait
peut-être le nombre d'upsells,
où on a arrivé à avoir tout le monde dans la même salle. Voilà, c'est mais les KPI, ça se transforme souvent, enfin ce qui donne le tempo et qui prend un peu plus de temps forcément. Immédiatement, on peut le mesurer aux nouvelles personnes touchées qu'on connaissait pas, aux informations au niveau du compte, au taux d'engagement dans le compte, etc. Après, le KPI ultime, évidemment, hein, le nerf de la guerre, c'est forcément le nombre d'opportunités qu'on signe. Donc, si on est, si en gros, dans son taux de conversion, on est plus bas que si on fait pas une approche ABM. Bon, bah là, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas clairement. Par contre, si on gagne du temps sur le cycle de vente, si on a des opportunités, là, par exemple, sur des programmes ABM, il y avait des ça m'est arrivé dans un cas où ça faisait des années un peu, enfin des mois, des années que que certains comptes étaient dans le CRM. Bon, bah, avec une approche ABM, en fait, ils se sont réveillés, ça a commencé, enfin, ça a commencé à, dans les stages d'opportunité, à avancer. Bon, bah, voilà, ça, c'est ultra positif. On n'aurait pas fait une approche ABM, bah, ils auraient continué à être un peu dormants, on va dire, alors que là, ça a déclenché quelque chose. Donc, le KPI
On est
ultime, ça
limite sur une
reste
approche,
l'opportunité.
on est limite sur une approche un peu qui est pro, enfin qui peut être proche du nurturing, quoi. C'est-à-dire qu'on nurture en fait des comptes jusqu'à qu'ils s'activent de plus en plus et jusqu'à qu'ils se disent OK, pourquoi pas, j'aurais rien discuté. Mais en fait, du coup, c'était parfois plus de personnes en même temps. Et du coup, en fait, dans tout ça, quels sont les outils que tu utilises? Parce que on a l'impression quand même ça a l'air d'être
Très
une
simple.
machine.
Non,
Ah ouais, mais justement, en fait, c'est tellement.
justement.
Alors, moi, je le sais en off, c'est très simple, mais du coup.
Non, non, c'est très simple. Il n'y a que la troisième approche dont on n'a pas trop parlé, parce que je suis pas trop positionnée dessus, justement parce que ça demande pour moi des outils. C'est le one to many, où là, on est plus dans une personnalisation, mais qui est un peu automatisée. Donc voilà, là ça nécessite pour moi des vrais outils. Je pense qu'au départ, et ça souvent les professionnels me demandent quels outils ils doivent utiliser, je pense qu'au départ c'est un peu comme le monde du logiciel, il faut faire des POC, il faut faire des tests en ABM et il faut d'abord bien maîtriser la méthode avant de s'outiller. Et l'outil n'est pas. Enfin, c'est pour monter d'un cran, un cran supplémentaire, pour industrialiser ensuite la méthode ABM. Mais en réalité, au début, on n'a pas besoin de ça. Et même après, si on n'a pas envie, tout de suite, enfin, voilà, il faut trouver le bon moment pour passer. Les outils peuvent énormément aider, évidemment. Mais après, je pense que, on utilise les outils classiques. Pour la recherche, donc pour répondre à ta question, pour la recherche, ça va être, Google, tout simplement, les documents type rapport annuel. Moi, je sais que dans les présentations investisseurs, je trouve énormément de choses, mais vraiment. Voilà, donc il y a quelques documents qui sont pour moi des indispensables. Ensuite, il y a Google avec la recherche critère booléen. Il y a l'IA qui peut aider évidemment là-dessus. Et
Donc,
puis,
un chat GPT
oui, tout à fait.
classique à 20
Entre
euros,
autres,
ça
il
peut.
y a
Ouais,
Omni
ok.
aussi qui est intéressant à regarder. Et puis, il y a aussi Sales Navigator, évidemment, pour cartographier les personnes. Sales Navigator a vraiment, quand on connaît l'outil, un potentiel énorme
De
en
fou,
termes de
ouais.
recherche avancée. D'ailleurs, j'ai fait une autre vidéo là-dessus
Avec vous et vous, ouais.
qui est vraiment… voilà, donc quand on maîtrise l'outil, c'est vraiment… il est très… Bah, il est puissant, quoi. Et puis après, c'est du classique, du marketing automation, un outil de marketing automation. Maintenant, toutes les entreprises quasiment en ont. Ça va être,
T'as
voilà,
des exemples
CRM.
parce que toutes les entreprises en ont. Je serais pas à cette époque les
Oui,
entreprises.
alors modérons un peu les propos, effectivement. Non, pas forcément
Marketing
tous,
automation. Déjà, CRM, c'est pas sûr, hein. Il y a des
mais…
boîtes qui ont pas de CRM encore.
Oui.
Donc t'as quoi comme outil, par exemple, des exemples, peut-être un ou deux.
Alors, si on n'a pas tout ça, bah, dans ces cas-là, ça va être plus des actions d'envoi d'emails, etc. Et donc, la force du SDR va être importante, encore plus. Si on n'a pas tous ces outils-là, en gros, il faut encore plus s'appuyer sur des gens comme des équipes SDR qui, eux, ont la capacité d'envoyer, etc. Donc, le marketing va construire les messages, va aussi itérer avec le SDR qui fait ça au quotidien. Donc, il a aussi sa valeur, une valeur ajoutée là-dessus. Et puis, c'est lui qui va un peu déplier le programme, les séquences, etc. Donc on peut faire ça comme ça. Et après, en termes de lead, si on n'a pas de CRM, bah, l'Excel est
Ouais,
mon
ça c'est
ami quand
compliqué.
même.
Mais est-ce que du coup, je pose la question comme ça, est-ce qu'il y a des CRM qui sont un peu plus adaptés, je dirais, quand tu veux mettre en place une stratégie ABM? Je m'explique. Moi, par exemple, dans la boîte que j'avais développée, qui c'était Cube, principalement mes boîtes, ma target, beaucoup de grands groupes et des ETI. Et après, au fur et à mesure de la boîte, on a été sur des PME, des startups, des scale-up. Je me souviens d'un casse-tête. Tu vois, typiquement, je me dis, bon, on n'était pas, on avait quelques comptes qui étaient à 50, 100, 100K, mais c'était pas la majorité de nos comptes. Donc, c'est pas l'idée de faire une stratégie ABM, mais je sais que dans l'utilisation d'un CRM, notamment moi à l'époque, même s'il n'y avait pas eu d'arrêt, il avait beaucoup évolué, j'ai l'impression que pour pouvoir mapper en fait ton compte, ça demande quand même du mapping, hein, quand même, de se dire, ok, bah, cette boîte-là, c'est la mère de, c'est de ces 3-4 boîtes-là, dans ces 3-4 boîtes-là, il y a 6-5 filiales, etc. Bon, maintenant, ils ont quand même pas mal évolué, par exemple, PyDrive, donc aujourd'hui, c'est possible de faire des parents, des maisons-mères, etc. Mais c'est pas toujours été le cas. Du coup, est-ce que tu as des recos, toi, justement, sur des CRM, en fait, qui sont beaucoup plus adaptés? Je sais pas, peut-être que Salesforce, le plus ancien, c'est plus facile, peut-être, Spot, j'en sais rien. Je pense à ça parce que ça peut être vite un casse-tête, tu vois, de
voir qui travaille avec qui. Ça fait longtemps quand même. Enfin, il y a des outils. Ça fait longtemps que j'ai pas forcément mis les mains dedans, mais je sais qu'ils ont beaucoup évolué. Bon, moi, j'aime beaucoup Salesforce. Au départ de ma carrière, j'ai été même admin Salesforce dans ma boîte et c'est moi qui l'ai mis en place. Donc, j'avoue, Salesforce, j'aime beaucoup parce qu'effectivement, on peut créer cette histoire de relation, d'avoir des choses un peu, d'avoir une vraie power map, en gros, compte. Exactement. Je pense que HubSpot a bien avancé aussi sur le sujet. Après, les autres, je les maîtrise un petit peu moins, j'avoue.
Ok. Non, mais du coup, c'était juste pour, tu vois, un peu de voir effectivement, parce que ça demande quand même pour suivre tout ça, pour que le marketing, le sales, etc., côté une vraie, enfin, que ça reste pas du coup sur un PowerPoint, il faut que ça prenne vie aussi également dans les outils des,
complètement.
De l'équipe. Et donc, il faut que ce soit quand même structuré.
En termes de tracking, surtout.
Exactement. Bon, après, j'imagine que c'est que les boîtes, en tout cas visées, qui peuvent faire de l'ABM, ont peut-être aussi également des sales ops en interne qui peuvent permettre d'organiser tout ça. Ok, donc du coup, tu as donné les outils de base que devrait avoir, on va dire, minimum un sales navigator ou peut-être un Faro, je sais pas, ça peut. Je sais pas quels sont les deux qui, enfin, quel est, si Sales Navigator va plus loin que Faro ou pas, j'ai pas d'idée précise là-dessus. Un CRM. L'IA ChatGPT peut faire le job. Après, tu as cité un autre outil que je mettrai dans la description. Je ne sais plus si tu as dit un outil qui était pas mal.
Omni.
Ok, je le mettrai dans la description. Et du coup, voilà. Donc, c'est plutôt basique. Maintenant, pour conclure, ce que j'aimerais savoir, c'est que, en gros, tout à l'heure, tu disais... Bon, après, moi, chez mon programme d'ABM, après, c'est les BDR, ça va chez les BDR, ça va chez les SDR, le marketing. Comment tu fais pour incentiver tout ce bon monde?
Ah, la question récurrente.
La question récurrente de l'attribution.
Elle est pertinente. C'est sûr que, un alignement. À chaque fois que je dis alignement sales et marketing, tu sais, t'as toujours dans la salle les personnes qui disent, c'est évident, il est, non, enfin. Mais en fait, on se rend compte que dans la pratique, après, on a ses objectifs, ses propres objectifs. On a un temps à disposition qui, des fois, nous semble pas assez long. Un programme ABM, comment le faire que il faut créer une routine en fait. Il faut créer une routine. Il ne faut pas que ce soit non plus que ça vienne surcharger tout le reste. C'est pour ça que ça doit faire partie de la stratégie d'entreprise que de vraiment inclure ce POC ABM et cette démarche ABM. Mais en gros, il faut créer des routines. Il y a des choses qui sont envoyées en spontané. Par exemple, quand quelqu'un est engagé, faut l'envoyer tout de suite au sales. Enfin, on sait très bien que la réactivité est clé quand on a engagé quelqu'un. Je pense qu'il faut se créer des routines ou avec des ordres du jour, un peu de réunion. Enfin, bref, structurer un peu toute cette démarche-là pour que à chaque fois, le marketing donne les informations essentielles sur des documents qui sont pas lourds à maintenir, qui sont des templates faciles à mettre en place. Le sales donne aussi, ou le SDR donne aussi ses insights sur tu m'avais donné telle et telle personne intéressante, j'ai pu rentrer en contact sur LinkedIn. Enfin voilà, il faut vraiment qu'il y ait une synergie où chacun a sa place et chacun apporte quelque chose. Donc à partir du moment
après, pour quand même de la structure, parce que Parce qu'on connaît un petit peu les boîtes à l'intérieur. Il faut quand même, en tout cas, comme tu dis, il faut que ça s'organise, qu'il y ait que ça fasse partie de la stratégie pour que le sales et marketing se posent vraiment ensemble, ont vraiment l'intérêt à se poser ensemble pour parler des avancées sur le compte, et que ce soit pas le sales qui fait son truc dans son côté, le marketing qui a envoyé quelque chose, mais qui check pas, en fait, que le sales derrière a lu ou pas les dernières nouveautés sur tel ou tel interlocuteur. Donc, ça demande quand même, en fait, un minimum d'animation de la part d'une personne.
Oui, tout à fait. Et c'est souvent le rôle du référent marketing qui prend ce rôle-là, ou moi en externe, qui va vraiment animer tout ça en disant voilà, c'est cadré. En plus, il y a un processus en place, on va le suivre et tout se passera bien, quoi. De toute façon, un programme ABM, bon, on décide un peu de la durée, mais c'est 4 mois incompressibles. Il y a 1 mois de préparation et après il y a minimum 3 mois où on lance les campagnes. Donc voilà, si on se voit au départ un peu plus régulièrement, puis après un petit peu plus distendu, si on cloisonne un peu les réunions où effectivement on va pas inviter un sales alors qu'on est en train de faire un grand bilan purement marketing qui va pas l'intéresser. Enfin voilà, il faut être un peu logique dans la démarche et se dire voilà, bien cloisonner les choses, bien structurer les choses, et ça, il y a des process en place très faciles, sans que ça déplie une machine phénoménale.
Et donc à la fin, ceux qui sont rétribués si c'est closé, on va dire c'est le marketing et le sales.
Un objectif commun, donc et c'est là où c'est intéressant, parce que des fois on se met des limites. Tu vois, naturellement, dans une approche traditionnelle, souvent on dit bah non, moi je m'arrête là et puis tu reprends. Alors que dans une collaboration ABM, j'ai vraiment vu, que ce soit dans le monde du marketing ou du commercial, j'ai vraiment vu des gens un peu passer la ligne pour aider, quoi. Des sales qui ont une petite fibre un peu marketing et qui va donner vraiment des retours hyper pertinents sur des contenus ou des formats ou des messages, et à la fois du marketing qui va dire ah, ta réunion avec telle personne, on a réussi à avoir une super réunion hyper pertinente avec tout le monde autour de la table, je peux t'aider à organiser ce workshop, je peux t'aider dans ta présentation sales, etc. Donc j'ai vu des collaborations vraiment bien. En ABM où on sort de sa zone de confort et comme on est un objectif commun, on veut que, enfin, tout le monde va dans le même sens et donc tout le monde est prêt à aider pour arriver au résultat.
C'est gratifiant parce que tu es sur des comptes hyper élevés. Vous avez, tu as signé un compte à 100 000, à 1 million. Vous avez fait ça à 3, 4, 5. C'est extraordinaire, quoi. C'est trop bien, quoi. Ok, trop cool. En tout cas, merci énormément pour tout ce que tu as donné. Ça donne une bonne vision de ce qu'est l'ABM, comment commencer, Avant de conclure, j'aimerais juste te poser la question. Oui. Les gens qui nous écoutent, qui sont dans la catégorie des personnes qui pourraient prétendre à commencer à faire de l'ABM, c'est quoi le conseil que tu leur donnerais avant même de démarrer, de se lancer ?
De vérifier effectivement si les deals ont le montant minimum, de vérifier que il y a des bons profils à l'intérieur de l'entreprise qui pourraient être embarqués dans ce POC ABM, et d'avoir un peu structuré, et encore on peut le faire ensemble, mais structurer un peu le côté ICP, se réunir avec les sales.
Être clair sur ces personnes-là, quoi.
Ouais, être clair sur où on veut aller, etc.
Oui. Ok. Très cool. On va du coup conclure cet épisode-là. On en fera un autre ensemble, notamment pour la suite. Ok. Là, on a parlé vraiment de la mise en place, des concepts aussi également, du concept de l'ABM, etc. Ensuite, évidemment, il s'agit d'aller faire des campagnes. Hein. Il s'agit d'aller attaquer ces personnes-là. Et donc, tu as une expérience là-dessus où tu travailles avec des sales, du market, etc. Et donc, du coup, on parlera un peu, proprement dit, de comment activer tout ce beau monde que tu as identifié pour évidemment aller chercher le Graal, de nouvelles opportunités, remplir le pipeline, etc. En tout cas, merci beaucoup. On se retrouve bientôt, du coup, Hélène. Merci vraiment pour toute la valeur que tu as apportée. Et pour vous tous, bah merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous voulez ne pas rater le prochain épisode sur l'ABM, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée ou sur YouTube. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao.
Merci beaucoup, Laetitia.
C'est déjà la fin. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous repartez avec assez de matériel pour exploser vos ventes. Si vous n'en avez pas eu encore assez, abonnez-vous à Vendu dès maintenant sur votre appli de podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez aussi vous rendre sur mon site web www.vendu.fr où vous trouverez plus de contenu. Par exemple, tous les 15 jours, je décortique une vente que j'ai conclue ou ratée de A à Z pour partager mes meilleures stratégies. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.